Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Voici Lille Info, comme chaque mercredi, entre 17h30 et 18h. La télévision universitaire se met bien sûr à l'ère Internet. C'est une obligation si on veut rester dans le coup, notamment pour une université comme Lille. Et on va aborder ce sujet donc avec M. Guy Vantôme, qui est directeur adjoint du SEM, on va préciser ce qu'est le SEM, et responsable ingénierie des projets audiovisuels et multimédia, donc depuis 2005 maintenant. Bonjour M. Vantôme.
Bonjour.
Donc cette université, comme d'autres, ont, j'allais dire, une mission, mais aussi ont certainement le plaisir et l'intérêt de réaliser des films, des documents à partir de la production des enseignants, des chercheurs, voire des étudiants de l'université, pour les mettre alors en réseau. Alors, quel est ce réseau? Est-ce qu'il s'adresse uniquement aux gens de l'université, des universités ou au grand public?
Oui, alors depuis maintenant à peu près 6 ans, à l'université de Lille 1, il existe ce qu'on appelle Lille 1 TV, qui est une chaîne universitaire. Cette chaîne universitaire est donc mise en place et animée par le SEM, qui est le service enseignement multimédia de l'université. On fait du développement et on fait de la production audiovisuelle, soit en interne, soit avec l'aide des étudiants pour leurs travaux. Et afin de mémoriser toute la culture scientifique qui existe à l'université, que ce soit sous forme de colloques, sous forme de conférences, de débats, mais aussi sous une forme audiovisuelle, eh bien tout cela peut être mis à disposition sur cette chaîne universitaire afin de pouvoir soit regarder des directs, soit pouvoir revoir des documents qu'on n'a pas pu assister lors d'un colloque, lors d'une conférence, ou qui nous intéressent sur un sujet quelconque, toujours bien sûr à caractère scientifique, pédagogique, culturel. Voilà donc l'intérêt du développement de cette chaîne Lille 1 TV.
Est-ce que dans chaque université en France, il y a un service audiovisuel de cette nature?
Oui, grande question. Les grandes universités, je ne vais pas dire ce que sont les grandes universités par rapport aux autres, mais les grandes universités ont maintenant toute une chaîne universitaire de télévision, plus ou moins alimenté avec plus ou moins de documents, une échelle petite, une grande échelle. Chacun essaye d'avancer avec l'expérience qu'il a, les moyens techniques et humains qu'ils ont, et puis avec la production et la politique aussi de développement de ce type de proposition d'outils qu'ils ont envie de mettre en place. Maintenant, le SEM est quand même un service assez conséquent avec depuis presque un an maintenant un nouveau bâtiment de 600 mètres carrés, un plateau, une régie son, enfin toute une infrastructure et un personnel. On a à peu près 13-14 personnes dont 6 côté audiovisuel. Donc par rapport aux universités, oui, c'est, on va dire, un service assez conséquent par rapport à d'autres.
Alors, c'est à la fois conséquent, mais en même temps, en fonction des ambitions que vous avez, et qu'on va rappeler hein, par rapport au projet de l'université, et aussi dans le cadre ministériel, des propositions, j'allais dire des exigences, c'est peut-être un grand mot sur lequel on peut revenir. C'est un secteur qui va considérablement se développer pour l'intérêt de la communauté ou du grand public.
Alors, il y a deux questions, donc deux réponses. La première, oui, ça doit se développer, ça va continuer à à se développer. On en est, pour moi, je trouve que dans les balbutiements, parce que l'audiovisuel, l'image, prend de plus en plus de place et de diverses façons dans, on va dire, les approches universitaires que l'on peut avoir concernant l'enseignement, mais aussi à faire connaître une certaine forme de culture scientifique, aborder des sujets. Donc là, de ce côté-là, ça ne fait que commencer. Mais en termes de moyens, oui, on est beaucoup pour certains pour pouvoir produire de la vidéo, peu, même très peu, par rapport à certaines politiques de développement audiovisuel. Là, je pense par exemple au podcasting de cours, qui nécessite quand même des compétences évoluées et puis une interaction avec les enseignants qui est très difficile à mener du fait de l'ampleur d'un tel projet et du nombre de cours et d'enseignants répartis dans toutes les infrastructures de l'université.
Est-ce qu'on peut imaginer au niveau national, sinon international, une forme de Wikipédia audiovisuelle qui soit gérée et alimentée par les universités?
Alors, ça existe, on va dire, déjà. Ça existe déjà parce que il existe la chaîne qui s'appelle CanalU, qui est en fin de compte la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur et qui héberge une bonne partie de la production audiovisuelle qui peut être diffusable et qui est donc mise à disposition de CanalU. Et donc ça permet déjà de répondre à une très forte attente en interuniversitaire, mais aussi au grand public. Il y a une autre chaîne aussi qui prend énormément d'ampleur, c'est la chaîne Universcience. Et donc cette chaîne propose maintenant de plus en plus des reportages, des documentaires scientifiques de qualité et vraiment sur toutes sortes de sujets. Donc oui, il y a, on va dire, Wikipédia, c'est peut-être pas le mot, mais il y a comme ça des grandes structures qui regroupent la production pour pouvoir la montrer, pour pouvoir la rendre moissonnable. C'est-à-dire qu'une recherche sur l'INA TV doit pouvoir arriver à CanalU, une recherche sur CanalU doit pouvoir arriver à l'INA TV. Mais en même temps, et là ça peut se débattre, je crois beaucoup à l'intérêt du développement de micro-chaînes universitaires qui répondent à des besoins spécifiques et à une identité très spécifique universitaire, qui permet de montrer des choses, de cataloguer des choses qui ne seront pas montrées sur des chaînes telles que CanalU ou Universcience.
Donc l'université Lille-1 a ses spécificités en termes d'enseignement. Est-ce que la chaîne Lille-1 reprend toutes les thématiques de l'enseignement qui se fait sur l'université ou a ciblé des priorités?
Alors, l'INA TV n'a ciblé aucune priorité, puisque pour l'instant, l'INA TV ne met pas en place, n'a pas encore mis en place une chaîne éditoriale par manque de temps. Donc, on répond à la demande, c'est-à-dire qu'il y a un colloque, une conférence, les gens ont besoin, trouvent que ce serait bien qu'on enregistre pour remettre à disposition cette chaîne ce qui s'est passé, et donc on intervient. Nous-mêmes, on essaye aussi de pister les choses intéressantes. Bon, et par contre, on travaille beaucoup avec l'espace culture, où là, c'est, on va dire, tout ce qui se passe à la culture, et par exemple dans le cadre de Archimède, systématiquement est enregistré et rediffusé. Par contre, il faudrait, et on doit s'y attacher, il faudrait qu'on développe une véritable politique de développement de produits locaux universitaires. C'est-à-dire créer comme une chaîne de télévision, c'est-à-dire créer notre propre chaîne éditoriale et mettre en place des reportages qui sont vraiment des reportages Lille-1 sur des thèmes qu'on pourrait réfléchir et puis mettre en place, thèmes qu'on réfléchirait avec des enseignants, etc. Ça, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à le faire.
Donc effectivement, ça, on peut imaginer une équipe de rédaction avec J'allais dire un projet pour la semaine, le mois, enfin, avec des rendez-vous, etc.
Oui, voilà. Et c'est vraiment vers ça que l'on veut aller. On en est dans les prémices, on est en train de voir un petit peu mettre en place ce début de chaîne éditoriale, mais on sait que ça va demander des moyens humains et puis du temps. Et pour l'instant, là, on ne sait pas encore trop où on va. Enfin, j'ai déjà rencontré Nabil Agar à ce sujet avec notre vice-présidentice et Philippe Mathieu, et pour essayer justement de voir quels sont les moyens matériels, moyens humains nécessaires, complémentaires à l'existant, pour pouvoir aller vers ce genre de développement qui, pour moi, est on va dire inévitable.
Alors, c'est vrai que des moyens, souvent, ils sont plutôt fixes. On a tendance à redéployer plutôt qu'à trouver de nouveaux moyens. Est-ce que le plan université, le développement de cette grande université régionale, va vous donner des moyens supplémentaires et est-ce que ça fait partie du projet?
Alors, l'université Grand Lille, qui commence à la fois à prendre forme, va peut-être permettre de répondre à ces attentes-là. C'est vrai que, par exemple, l'université de Lille 1 a des moyens techniques, humains. L'université Lille 3 a aussi des moyens et aussi une expérience et du matériel. Lille 2, peut-être pas la même approche, mais il y a aussi des moyens. Et c'est vrai que je pense que c'est inéluctable qu'on va devoir peut-être se regrouper sur certains grands projets, en gardant peut-être une identité, ça je ne sais pas, ce ne sera pas trop à nous de décider ce genre de choses, mais peut-être à se regrouper pour essayer de travailler ensemble et pouvoir répondre à ce type d'attente, ça c'est sûr.
Donc là, on a bien entendu que dans la suite de ce qui était fait dans les années précédentes, vous mettiez en ligne des productions de l'université. Est-ce que du côté des cours, des professeurs, on peut imaginer également que votre chaîne donc web puisse, je vais pas dire suppléer, c'est pas un mot que j'aime bien, mais aider les professeurs à communiquer plus largement et de manière un peu décrochée parfois du temps de disponibilité des étudiants, trouver justement la possibilité de faciliter l'écoute, la compréhension par le plus grand nombre d'étudiants de leurs cours. Et bon. Peut-être est-ce que l'avenir est aussi sur une forme, à dire, mixte entre le cours en direct et le cours enregistré, non? Il n'y a pas ça derrière?
Alors oui, tout à fait. C'est bien, c'est une volonté du ministère d'essayer à ce que les enseignants mettent des cours en ligne. Alors le SEM aide déjà les enseignants à mettre des cours en ligne, mais on va dire sous forme image, sous forme texte, sous forme d'interface informatique. Là, l'idée, c'est d'aller on va dire sur un autre domaine. Je ne veux pas dire aller plus loin. C'est notre domaine qui est pouvoir essayer de mettre en ligne un cours, mais de manière le plus simple possible. Le plus simple, imaginons un enseignant qui fait un cours qui dure 1 heure. S'il est filmé, enregistré, son image, on a ce cours, l'enseignant peut mettre ça en ligne et donc rendre disponible son enseignement sous cette forme-là, sans avoir peur que ça va le remplacer. Ça n'est absolument pas ça, puisqu'on ne peut pas regarder une image vidéo comme on écoute un enseignant. Ça n'est pas du tout la même approche. Mais ça laisse une trace, ça permet de revoir un cours, ça peut permettre d'approfondir certains domaines. Et, bon, voilà. Par contre, ça, c'est la théorie. La pratique, on ne peut pas mettre une caméra et un micro derrière chaque enseignant, et encore moins un technicien. Ça, c'est impossible. Donc, on essaie de trouver une autre approche. Et la première démarche était déjà de développer un site de podcasting qui s'intègre dans l'INA TV où on pourrait déjà retrouver tous ces enseignements filmés. Alors, la méthode qu'on préconise là, c'est nous, un enseignant, soit chez lui, mais à son bureau, ou s'il est un peu plus téméraire, j'oserais dire, directement en live devant ses étudiants. S'il a un portable, sur son portable qui serait mis en réseau, il peut très bien, par un programme qui est déjà accessible, il peut très bien enregistrer tout ce qui se passe sur son ordinateur. Imaginons qu'il a un PowerPoint. Eh bien, il peut très bien utiliser le PowerPoint. Tout ce qu'il fera avec la souris sera enregistré, tout ce qu'il écrira sera enregistré. La webcam peut le filmer pour apporter, on va dire, un côté humain à ce cours, mais en même temps, ne serait-ce qu'aussi que pour montrer un objet en 2D, en 3D, pourquoi pas. La webcam, si c'est une bonne webcam, elle peut aussi voir l'enseignant évoluer. Il faut voir ça dans l'espace. Et bien sûr, un micro, alors soit qu'il a un micro-casque, mais si c'est un cours en direct, parce que dans son bureau, il peut mettre un cas, c'est un cours direct, là, il faut qu'il s'équipe d'un micro-cravate, par exemple. Et là, il fait enregistrement, tout ce qu'il va dire pendant une heure, tout ce qu'il va faire pendant une heure est pris. À la fin de tout, il fait stop, et il dit, je podcast ce que j'ai fait. Et ça devrait arriver, actuellement, ça marche, hein. Ça devrait arriver donc sur Lina TV, sur le côté, ce que nous, on appelle Lina TV Pod, tout ce qui est podcasting de manière volontaire par l'enseignant.
Non, ce n'est pas sans danger, sans dérive possible, bien sûr. Est-ce qu'il y a un comité de vigilance par rapport à ça?
Actuellement, il n'y a pas de comité de vigilance. Tout le monde peut podcaster un cours. Mais qui dit je peux podcaster un cours, dit aussi je peux podcaster une vidéo. C'est aussi disponible. Et là, donc, tout enseignant peut podcaster ce qu'il veut. Alors, la vigilance... Il y a deux sortes de vigilance. Il y a la vigilance à un podcast qui ne correspondrait pas, on va dire, à la chaîne éditoriale de l'INA TV, et puis qui pourrait être ambigu par rapport à un contenu. Là, la méthode que l'on va mettre en place, si c'est nécessaire, mais en même temps, on fait confiance aux enseignants. Mais une dérive, pourquoi pas, je ne sais pas. Et là, il suffit qu'il y ait un mail... possibilité d'envoyer un message en disant attention, il y a un contenu qui me semble...
C'est vrai qu'on... Là, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. Quand on présente un document brut et que derrière le professeur commente, explique, le remet dans un contexte, effectivement, s'il apparaît comme ça hors contexte, on imagine bien que le même support peut avoir des effets très différents sur le public.
Tout à fait. Mais nous, sur cette partie podcasting, on a mis la possibilité soit que le document qui est enregistré soit visible par tout le monde, soit que par un identifiant universitaire Lille 1, ou alors par personne, c'est-à-dire qu'il se le réserve. Mm-hmm. Donc déjà, ça permet de limiter l'accès. Et si un enseignant met une vingtaine de cours en ligne... Il peut simplement le rendre disponible que sur la partie Université Lille 1. Mais on essaie d'aller plus loin où chaque enseignant pourrait créer sa micro-chaîne. Par exemple, un enseignant qui fait des mathématiques et qui crée une série d'exercices en mathématiques, il peut créer une chaîne mathématique avec un nom spécifique. Et cette chaîne-là, il pourra la rendre visible, par exemple, que par un groupe d'étudiants. Donc, je pense qu'il va pouvoir, comme ça, être maître de son contenu et pouvoir gérer son accès.
Si on va même plus loin dans l'imagination, on peut, par exemple, penser que des étudiants puissent renvoyer au groupe des images ou des documents qui enrichissent la base de cours.
Oui. Alors, pour l'instant, nous, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que pas par rapport à du podcasting actuellement, mais par rapport à une... Je vais prendre l'exemple d'une conférence. On enregistre une conférence. On donne accès aux conférenciers à ce podcasting. Et il peut déposer des documents. Donc, un enseignant pourrait... Une fois que tout le site sera bien mis en place, pourra, par exemple, déposer des documents. Et pourquoi pas, derrière chaque micro-chaîne, chaque podcast, pourquoi pas développé comme une sorte de blog qui permet donc d'alimenter, de critiquer, d'apporter des compléments. Un autre enseignant pourrait venir apporter un complément d'information et pouvoir accepter des informations venant des étudiants par rapport à un contenu. Ça c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à mettre en place et qui, d'après moi, va se développer un peu à la fois.
Bon, en rêvant un peu, on peut imaginer aussi des TP que les étudiants filment pour montrer à leurs profs ce qu'ils ont fait.
Alors actuellement, le podcasting n'est pas accessible côté étudiant, pour l'instant, puisqu'il est en phase de test. Alors, si on ouvre ça aux étudiants, il y a deux aspects. Puisque on n'est pas YouTube ou Dailymotion. Ça n'a pas cette vocation-là. Donc, pour nous, tout ce qui est déposé par un étudiant doit quelque part être labellisé. Et donc, un étudiant ou un groupe d'étudiants qui filmerait un TP, pourquoi pas le podcaster, mais je pense que la visibilité serait validée, devrait être validé par l'enseignant. Il pourrait mettre, on ne va pas dire une note, mais il pourrait donner comme ça une échelle de valeur. C'est-à-dire, ce que je vois là, fait par un groupe d'étudiants, ça vaut ça, pédagogiquement. Et là, je crois que ça peut devenir très intéressant. Parce que même avec un document qui a une valeur pédagogique moyenne, il y a quand même un contenu qui peut être intéressant. Pas tout prendre, mais intéressant.
Alors, c'est vrai qu'entre ce qu'on voit des images et la... Et aussi la présentation de ces images quand on est dans un groupe, il peut y avoir un décalage, aussi des interprétations différentes, erronées parfois. Donc, quelque part, bien sûr, on apporte peut-être une richesse en images, en présentation des choses relativement concrètes, mais derrière, le rapport à l'enseignant, le dialogue entre les étudiants et les enseignants, ça reste fondamental pour décrypter les images ou analyser ou aller plus loin dans la réflexion.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je précisais qu'on n'était pas YouTube Dailymotion. C'est-à-dire qu'on veut une identité universitaire de façon à ce que derrière ça, on arrive à faire un développement de cet outil qui permet toujours à un enseignant ou à un étudiant de savoir où il se situe pédagogiquement, dans les contenus. C'est très important. Autrement, on peut dire tout et n'importe quoi et puis ça ne sert vraiment plus rien. On ne fait pas du divertissement. Donc, on n'a pas tout mis en place, puisqu'on ne fait que commencer. Et je crois que on va enrichir cette approche de podcasting universitaire par, justement, l'expérience, les tests, et puis, en même temps, les erreurs. Et on espère que les enseignants ne profiteront pas des erreurs pour dire que ça n'est pas à faire. C'est le risque. Je fais confiance aux enseignants, mais ça peut être le risque. J'espère que les enseignants, ils iront pour tester, et c'est ça qui va faire que l'outil va se développer, va devenir intéressant. Là, c'est un pari pour l'avenir, mais c'est quelque chose qui va se faire sur 5 ans.
Alors, l'idée pour une université, j'allais dire moderne, alors on peut s'entendre sur ce qui est moderne, c'est d'utiliser toutes les technologies possibles pour organiser, présenter au mieux, amener la connaissance. C'est ça quand même le but final.
Tout à fait. Tout à fait. L'ILIN TV est une chaîne universitaire, mais se veut être une véritable université, une véritable chaîne, excusez-moi, de transmission de la connaissance scientifique pour l'ILIN. Et il faut justement essayer d'ouvrir les portes au maximum à tous et à tout contenu qui peut être intéressant, de façon à ce que on puisse enrichir tout un chacun de connaissances diverses, culturelles, scientifiques, très précises parfois, de recherche, de façon à pouvoir, à un moment T, permettre à une personne, à un enseignant, à un étudiant, d'avoir un contenu qui puisse enrichir sa formation.
Alors, l'ILIN TV, c'est un site web. Alors, on va donner l'adresse, c'est l'ILIN TV. www.univ-lila.fr. À partir de là, il y a beaucoup de choses en ligne. Est-ce que des contenus sont, j'allais dire, ouverts au grand public et d'autres privés?
Tout est ouvert au grand public. Mais est-ce que le grand public peut tout comprendre? Il y a, par exemple, je pense à des conférences sur les nanotechnologies, où là, il y a certains conférenciers qui ont eu des approches volontaires, une approche très simple de ce que sont les nanotechnologies et à quoi ça peut servir. Je suis certain qu'une personne lambda, quelconque, hors universitaire, tombe là-dessus et va comprendre et va apprendre beaucoup de choses. Et puis il y a des approches très culturelles sur, par exemple, les frontières, la notion de frontières, la géopolitique, etc., qui permettent de découvrir comme ça des mondes que l'on pense inaccessibles, alors que absolument pas. Certains contenus sont vraiment ouverts à tout le monde.
Voilà, la télé sur Internet, bien, ça a démarré, mais néanmoins, c'est un grand chantier d'avenir.
Oui, tout à fait.
Donc, pour l'année 2011, comment vous voyez les choses et quels seraient vos rêves en ce domaine?
Oula, je ne vois pas les choses pour 2011 de manière très précise, à part un développement vraiment du podcasting de la part des enseignants, c'est-à-dire une volonté à essayer de mettre en ligne leurs vidéos, des cours, des toutes sortes de petites choses comme ça, pour pouvoir alimenter l'Ilin TV en podcasting et pouvoir tester en grandeur nature.
Merci Monsieur Guy Vantôme, on vous souhaite une bonne année 2011 alors.
Merci à tout le monde, c'est pareil.